Vous écoutez RMC. RMC.
Je voulais introduire en fait cette conférence par une réflexion que faisait William Churchill.
Il lui a mis une telle pression en parlant de Ferrari. Quelquefois, c'est dur à arriver quand les bolides sont du côté de Lyon.
J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football.
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, en direct sur RMC, en direct sur After Foot TV, en direct sur la chaîne YouTube de l'After également, on est partout dans l'After, première radio de France le soir, le 32-16 vous attend, le numéro WhatsApp de l'After vous attend, 06-12-424-424. Il n'est plus le chat noir de l'OL. L'OL gagne désormais le dimanche soir, messieurs, dames. Samuel Umtiti est là, Samuel, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Oui, la cherche toujours, quel genre de personne.
Oui. Salut Gilbert,
salut
Sam. Je crois que Sam avait participé à un after foot où Lyon avait battu Lorient 2-0 il y a deux semaines, si mes souvenirs sont.
Confirmation.
La stat n'est pas exacte de la part de Gilbert.
Exactement. Mais c'est pour ça que j'en rigole. Mais
je me concentre tous les matchs où il est venu et Lyon n'a pas gagné.
Il y a juste un OM Lyon où ils avaient perdu 3-2 à la dernière minute, mais sinon globalement, il est pas si mal.
Jean-Louis Tour est également avec nous. Il est au stade à Lyon. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde. Moi, c'est 15 buts en deux matchs cette semaine. Voilà.
Bravo Jean-Louis.
Merci.
Ouais. C'est vrai que c'est pas mal.
Ça va.
Tu fais le match retour du Bayern ?
Oui, bien sûr.
Ah, ça va, on sera bien vernis.
Par contre, il ne fait pas le retour de Strasbourg.
Aïe.
Bah non, je te laisse la qualif, j'y perds. Ouais, c'est la finale à Leipzig.
Peut-être il y aura beaucoup de buts, peut-être. On verra. Bon, en tout cas, Lyon-Barène 4-2. On va parler du match dans quelques instants. On va parler des autres rencontres du jour également. Lille-Le Havre 1 partout cet après-midi. Auxerre-Angers 3-1. Le PFC Brest 4-0. Toulouse gagne à Strasbourg 2-1. Et puis en Europe, l'Inter virtuellement champion d'Italie ce soir grâce à sa victoire 2-0 face à Parme. Et puis le Real est en train de gagner également à l'Espagnol 2-0.
Avec un doublé de Vinicius. Hein.
Avec un doublé de Vinicius. Ouais. Mbappé est blessé.
Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.
Et c'est qui le chat?
Je sais pas.
Peut-être qu'avec lui, j'aurais gagné 6-0.
Peut-être.
Ouais. Peut-être. Allez, on y va, les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Walid, de quoi veux-tu parler?
Bah, mon premier point, c'est l'Olympique Lyonnais qui a un pied et quatre orteils en Ligue des Champions. Ce soir, c'est quand même extraordinaire. L'Olympique Lyonnais, on va se rappeler ce qui s'est passé l'été dernier, mais l'image qu'ils envoient encore ce soir, c'est magistral. Bravo l'OL. Mon deuxième point, c'est Tolisso. J'ai envie d'encore parler de Tolisso parce qu'il a eu un gros trou pendant un mois et demi physique. Mais là, son retour depuis Lorient, le match contre Auxerre et le match encore ce soir, alors qu'il prend un KO dès la première minute, c'est exceptionnel. C'est le match d'une légende du club. Et mon troisième point, c'est Lille. C'est Lille qui se prend les pieds dans le tapis face au Havre, où ils ont plutôt fait un bon match. Ils ont eu des grosses occasions. Ils sont tombés sur un Morillo qui a fait un gros match, mais qui loupe un peu le coche aujourd'hui dans la lutte à la troisième place.
Samuel.
Bien évidemment, mon premier point, c'est l'Olympique Lyonnais. Je suis vraiment content de voir ce qu'ils ont pu afficher ce soir. Leur prestation, pour moi, qui démontre en tout cas leur ambition de finir finir européen et finir avec cette Ligue des Champions en poche. Mon deuxième point, c'est Corentin, encore une fois, après cette entame un peu compliquée de l'Olympique Lyonnais, avec une superbe passe et un pénalty, il remet l'Olympique Lyonnais devant. Et encore une fois, ça prouve tout le leadership qu'il a et qu'il apporte à ce groupe. Et mon troisième point, c'est pour toi Gilbert, Strasbourg, j'ai du mal avec cette équipe qui pour moi a des qualités top individuellement, mais qui est toujours en dents de scie, qui est capable de faire de belles choses et de très mauvaises choses comme ce week-end.
Tout à fait, c'était nul. on en reparlera tout à l'heure. Alors, j'aimerais faire un point classement avant qu'on rentre dans le détail sur Lyon, parce qu'on est à deux journées de la fin.
J'aurais pu faire un point PFC aussi, mais on en parlera demain.
Ouais.
Parce que le PFC est 10e du championnat.
C'est
vrai. Qui a mis une danse à Brest avec encore une fois du très beau football.
Donc, deux dernières journées, week-end prochain, week-end d'après. Ce sera le dimanche soir, hein, les deux multiplex, là. Donc, prenez bien rendez-vous, ce sera sur RMC. Donc, à deux journées de la fin. Bon, le PSG, ils sont aussi points d'avance sur Lens. Je rappelle que le PSG et Lens ont un match en moins, le fameux Lens PSG qui se jouera dans quelques jours. Lyon, troisième avec 60 points, mine de rien, est à 4 points de Lens. C'est assez fou, en fait.
Ouais.
4 points de Lens.
En plus.
Avec un match en plus.
Ouais. Et le match en plus, c'est PSG.
Exactement. Ouais.
Le gros coup lyonnais ce soir, c'est que Lyon est donc à 2 points de Lille, mais surtout à 4 points de Rennes, qui est 5e, avec 2 matchs à jouer. Donc 4 points d'écart entre la zone, entre Lyon et la sortie de la zone Ligue des Champions.
À 2 matchs de la fin.
À 2 matchs de la fin. Ouais. Donc là, maintenant, Lyon, faut qu'ils le fassent exprès pour pas y être dans
les 4.
Sachant qu'ils
vont à Toulouse, qui est en vacances, même s'ils ont battu Strasbourg aujourd'hui. Et ils reçoivent Lens sur la fin, où Lens préparera peut-être sa finale de Coupe de France une semaine après. Donc c'est vrai que là ils ont une balle de match la semaine prochaine, mais déjà pour moi
Lens la préparera, ils y sont.
Oui.
Après, il leur faut que 3 points là.
Quand j'y la préparera, c'est-à-dire qu'ils auront la tête, je pense, vu que la deuxième place sera sûrement acquise comptablement. Lyon aura à la maison une grande fête pour aller chercher cette troisième place, en tout cas aller la chercher définitivement, parce que pour moi ce soir c'est le dernier momentum de la saison pour l'Olympique Lyonnais. Ils ont la Ligue des Champions. Il faudrait une dinguerie pour ne pas voir l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions à la fin de saison.
Et puis après il y a Rennes 56 points, Monaco 54, Marseille 53 qui est 7e, je le rappelle. Alors si Lens gagne la coupe, ça offrirait une place de plus en championnat, pour peut-être le 7e du.
Peut-être pour Marseille,
Peut-être pour Marseille.
Pour la Conference League.
Oui, exactement. Bon, voilà le point. Évidemment, tout le monde va regarder ça avec attention désormais. Lyon, allons-y, Samuel. Franchement, c'est vrai que si on se remet il y a un an, où le club aurait pu disparaître, C'est pas moi qui le dis.
C'est
les dirigeants qui l'ont dit clairement quand ils sont venus dans l'after à plusieurs reprises cette saison. Et un an plus tard, une résurrection totalement inattendue. C'est fou.
Mais je pense que le club a très bien travaillé, dès l'été. On savait que c'était compliqué au niveau financier. Ils ont réussi à trouver des joueurs que personne connaissait
et dont on doutait, parce que
parce qu'on les connaissait pas, on savait même pas d'où ils venaient, mais au final ils ont réussi à créer quelque chose de fort. Pour moi, dans le foot, c'est une équipe et on les a vus, même avec des blessés, on savait que ça allait être compliqué, mais je trouve que le choix du coach, déjà, que moi j'ai connu à Lille, c'était un très bon choix, un coach qui est, pour moi, qui arrive à s'adapter facilement avec les joueurs qu'il a, même s'il a sa philosophie.
Il apporte toujours pas la longue suspension qu'il a eue.
Oui, bien sûr. Mais après, pour moi, la longue suspension, pour moi, je la mets un peu de côté, parce que comment il préparait ses matchs, il était présent. Donc, qu'il soit pas sur le banc, pour moi, c'est pas ça, c'était pas un souci. Mais comment il a préparé ses rencontres et comment il a réussi à former un groupe dans cette équipe-là et à les faire croire qu'ils étaient capables de le faire. Et on a vu une certaine confiance qui, petit à petit, a ramené des victoires. Et je suis vraiment content de voir cette équipe-là qui a galéré fort. Et je pense qu'on leur a, à certains moments, tapé dessus, parce que c'était normal, même par rapport à leur rendement. Mais ils ont réussi à créer quelque chose de fort. Et maintenant, d'avoir une possible qualification en Ligue des Champions, après tout ce qui s'est passé, moi je trouve que c'est fort, et on va dire que les supporters lyonnais doivent être fiers. Et je pense que même pour le football français, on se rend compte que oui, à chaque fois on va acheter des joueurs qui coûtent 40 000, 50 000, 30... mais là c'est pas le cas. Lyon, ils ont fait un gros travail là-dessus, et félicitations à eux.
Non, mais ce qui se passe ce soir, Gilbert, c'est exceptionnel. Quand on regarde dans le rétroviseur, cet été, tout ce qu'on disait, les communiqués, la peur, la tristesse de perdre un monument de notre championnat. Je pense aux supporters lyonnais qui jamais n'auraient imaginé à ce moment-là être troisième à 2 journées de la fin, gagner de cette manière contre Rennes, parce que le match qu'ils font ce soir, ils prennent un but, un golazo incroyable d'Altamari. Ouais, je pense qu'il a retenté 20 fois. Il en met pas une.
Début de la saison, d'ailleurs.
T'as Tolisso qui prend un choc dès la première minute, et derrière, ils repartent au combat, ils arrivent à retourner le match sur la fin de première mi-temps, avec du jeu, avec du volume, avec de la générosité, parce que c'est le symbole de cette équipe. Ils ont eu un gros trou avec les 2 défaites contre Lens et contre le Celta Vigo, mais derrière, ils sont repartis à la guerre physiquement, mentalement, avec des ressources inespérées. Quand on voit encore une fois Yarem Chouk qui marque ce soir, on a Alfonso Moreira qui est sur les buts.
Oui, il s'est réveillé au bon moment,
qui a connu des débuts compliqués, mais qui entre Auxerre et le match de ce soir est important dans la surface de réparation. Alfonso Moreira qui est une découverte incroyable cette saison. Je t'imagine si on nous avait dit, je crois fin août, que Miko Tadze partirait à Villarreal et que Malik Fofana serait blessé toute la saison, et que l'Olympique Lyonnais serait à 2 doigts d'aller en Ligue des Champions à 2 journées de la fin. C'est exceptionnel.
Oui, bravo. Alors en fait, tu sais, le football a toujours plus d'imagination que nous,
et c'est ça. Bravo Fonseca, bravo
c'est Sokler. Ma conclusion de 20 ans d'after.
Bravo bravo ce club, bravo cette simplicité, cette humilité, ce travail, cette générosité. Et on voit avec les supporters ce qui se passe sur ce match. Il y a une électricité, il y a un truc. Et à l'image, bien évidemment, de Tolisso qui a fait un match, qui a fait un match grandiose, mais pas que lui, tous. Hein. Je trouve Abner a été rayonnant, a été rayonnant, et c'est bien mieux que le catcheur Tagliafico qui, sur les dernières semaines, tuait tous les matchs de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu des choix aussi de la part de Fonseca qui sont récompensés. Bravo, bravo Lyon. C'est une superbe image pour notre Ligue 1 de voir Lyon s'en sortir comme ça ce soir et proposer ce football et être récompensé sur le terrain.
Dans un instant, on aura Adem au 32-16. Jean-Louis pourra également donner son avis, bien sûr. On se retrouve tout de suite en allée jusqu'à minuit dans l'after avec toujours Lyon et Rennes au programme avant de parler des autres matchs de Ligue 1 du jour.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Samuel Umtiti, avec Olivier Cherchon, avec Jean-Louis Tour qui est au stade à Lyon. On va accueillir Adem dans quelques instants. Jean-Louis, toi qui t'es allé pas mal de fois à Lyon cette année là.
Alors moi j'ai fait pas mal de matchs de Lyon et pour moi le grand bonhomme de la saison c'est Fonseca, bien sûr. Juste derrière je mettrai Mathieu Louis-Jean parce que le recrutement, oui, que ce soit cet été ou cet hiver, a été de qualité. Mais il faut un entraîneur capable aussi de faire progresser ses joueurs et de les mettre dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que moi Fonseca, ce que j'adore, c'est donc l'idée générale, le cap qui est fixé. C'est-à-dire que hormis contre le PSG, tous les matchs il les commence en voulant prendre l'initiative, en essayant d'être le maître du jeu. Là on l'a vu contre Rennes, c'est Lyon qui maîtrise, même s'ils leur font mal en contre-attaque bien sûr, mais globalement la maîtrise elle est lyonnaise. Je me souviens du match de Marseille où d'ailleurs à ce moment-là, vous vous rappelez quand même ce qu'on disait, Sam t'étais avec nous ce soir-là, où Marseille gagne finalement 3-2 alors que Lyon domine globalement le match et on s'est dit ça va être un tournant de la saison, etc. Là aujourd'hui on a la certitude que Marseille ne finira pas devant Lyon au classement. C'était fou de penser ça à ce moment-là, ce soir-là. Et donc globalement il fixe un cap et il est maître de son équipe et en plus il fait progresser tout le monde. Et ça pour moi c'est la qualité d'un entraîneur, c'est-à-dire qu'il a pris le temps sur certains joueurs, mais à l'arrivée il les a quasiment tous fait progresser et tous bien utilisés. Tolisso, je pense qu'on y reviendra en détail, mais la liberté qu'il lui donne, je trouve que c'est le truc le plus intelligent à faire avec Tolisso, et c'est le seul milieu de terrain que je vois à Lyon avoir cette liberté-là. L'utilisation de Yaremchuk en pointe, faire en sorte que l'équipe s'adapte à un profil de 9 différents et tout, ça aussi pour moi c'est la force de Fonseca. Donc pour moi c'est le grand bonhomme et le responsable majeur de la saison.
Sur la compo, Jean-Louis, je pensais que Schulk allait démarrer en faux numéro 9. Moi j'étais très étonné de voir Yaremchuk démarrer, même s'il avait mis ses buts contre Auxerre, et là il est récompensé aussi. Le choix Abner, où j'ai trouvé très très intéressant dans sa faculté à intégrer le milieu de terrain, à être une solution de relais supplémentaire pour les milieux. C'est vrai que Fonseca, moi je l'attendais au tournant quand même sur la fin de saison, parce que les fins de saison.
Mais surtout qu'oublions pas la fameuse série de 9 matchs sans victoire. Hein.
Oui, c'est ça.
Où là, il s'est fait allumer, Fonseca.
Mais cette série, Gilbert, faut pas oublier quand même qu'il était décimé. Hein. Il y avait personne. Hein. Il y avait une infirmerie
c'est
dingue.
C'est pas forcément la série qui me dérangeait. Moi, c'est surtout qu'il y avait. Il y avait une légende, enfin pas, c'est pas une légende, c'est une réalité avec Fonseca, que ça soit à Lille et même l'année dernière avec Lyon, où plus ça se tendait sur les fins de saison, moins il était inspiré. Et là, pour le coup, moi je trouve que il y avait eu un match contre Angers où ils avaient fait 0-0, il y avait pas de tir cadré, ça avait été catastrophique. Derrière, je trouve que dans son management, il a piqué Hendrick, où il l'a mis sur le banc contre Lorient. On avait fait le match avec Sam. Hendrick lui change le match en deuxième mi-temps avec Tolisso.
Mais Walid, pardon, mais c'était un peu un fantasme d'attendre une fin de saison ratée de Fonseca, parce que ça s'était déjà produit avant, tu vois.
Que je l'attendais quand même là-dessus, parce que
à l'arrivée, la mauvaise série, c'était dû aux blessures, tu vois. C'était la nervosité de Fonseca.
Bien évidemment, mais je trouvais que sur la fin de saison, il fallait qu'il réanime un petit peu cette équipe par ses choix, par les retours de blessures, mais aussi par la mentalité et la sérénité sur le banc. Et pour le coup, entre le match contre Lorient, le match contre Lyon, contre le PSG, où il a eu un plan parfait avec les deux devant, et encore ce soir, il a tout bon. Mais il y avait quand même une question. Attention, moi, en début de saison, j'ai dit la seule bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, c'est d'avoir Fonseca dans ses rangs par rapport au contexte où il sait faire surperformer ses joueurs quand ils sont en difficulté ou quand il y a moins de moyens. Par contre, sur les sprints finaux, j'attendais quand même de voir s'il allait être capable, parce que tu sais, c'est un peu comme Bielsa avec l'Olympique de Marseille. Tu donnes l'espoir aux supporters, tu donnes l'espoir aux observateurs avec une saison héroïque, mais à la fin, tu peux terminé frustré. Et là, je trouve que sur les 3 dernières semaines, accompagné des retours des blessures, il a quand même eu des compos bien plus inspirés que ce qu'il y avait juste avant.
Ouais, mais après, il a eu des compos. Je pense qu'il a été très serein. Il a été serein et ça, il l'a transmis à ses joueurs aussi, parce que ce qu'on lui reprochait, c'était, comme tu le disais, sur les fins de saison, on voyait ses équipes qui se faisaient accrocher par des équipes normalement moins faibles. Mais je trouve qu'il a vachement appris de ses erreurs et je l'ai trouvé, même moi, beaucoup plus serein, même dans ses discours, dans ce qu'il disait. Et il a porté ça à son groupe et réellement, je pense que l'Olympique Lyonnais ne se rend pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir un coach comme celui-là.
Oh, c'est
même,
un super coach.
Et même les joueurs, et comme tout le monde le dit, il a fait progresser tout le monde. Tout un groupe comme ça, et de nos jours, c'est rare. C'est rare de voir un entraîneur qui arrive à faire progresser tout un groupe. Il y a des équipes comme Luis Enrique qui arrivent à le faire, mais c'est pour ça que Paulo Fonseca, quand moi je l'ai connu, je l'ai toujours mis dans des entraîneurs top. Parce qu'il avait cette faculté-là et aussi dans l'adaptation, parce qu'il s'est
adapté.
Il
a un problème avec la pression,
oui,
par contre.
Oui, mais
moins
non,
moins la pression, c'est mieux. Mieux c'est pour
mais
lui.
Je pense pas, parce que il s'est adapté aux joueurs qu'il avait. Et si tu mets un autre entraîneur, je pense que ça se passe pas comme ça. S'est adapté, mais la pression, tu penses que
À Milan, c'était compliqué. L'année dernière, c'était compliqué. Il a explosé avec son histoire de carton rouge, notamment, même sur le sprint final.
Loïc, là, sur WhatsApp, m'a dit la seule unique bonne décision de Textor, ça a été de le garder malgré la suspension.
Ouais, après je pense qu'il était un peu obligé.
On est sûr qu'il sera là la saison prochaine.
Je sais pas, mais en tout cas, déjà on va.
Tu joues la Ligue des Champions.
Ouais, ouais.
Ah, je sais pas s'il y avait un club qui vient le chercher.
Mais ce qui est fou, c'est que Lyon l'année dernière avait les deux entraîneurs derrière Luis Enrique au classement ce soir. Pierre Sage et Fonseca. Et ils ont fait la saison avec les deux, et c'est deux top coachs qui font surperformer leurs éléments.
Adem est là au 32-16, salut.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bon, tu es sur ton nuage toi aussi, parce que c'est totalement inattendu.
Alors déjà, franchement c'est un match qui était très important en vue de la qualification en Ligue des Champions. Là, on peut dire franchement qu'on est bien parti. Et puis, Si je dois relever quelque chose, je suis d'accord avec Jean-Louis par rapport à Paulo Fonseca, qui est un coach qui nous a apporté énormément tactiquement, dans le jeu, footballistiquement et aussi dans la cohésion de groupe. Moi, quand on voit certaines phases, je ne sais pas si vous êtes d'accord, certaines phases de jeu, mais c'est magnifique, hein, techniquement, ça joue.
Mais ce soir, c'est pas loin d'être la meilleure prestation de l'OL cette saison.
Pardon ?
Ce soir, c'est pas loin d'être la meilleure prestation de l'OL cette saison, je trouve.
Après, je pense que ce que Paulo Fonseca a ramené, c'est un cadre. Avant qu'il arrive, quand tu regardais tactiquement, je pense que tactiquement, il n'y avait pas forcément quelque chose de bien fait. Et au final, là, les joueurs, ils ont différentes options aussi, même pour défendre sur un pressing haut ou bas, sur quand ils ont le ballon, le positionnement qu'ils doivent avoir, et je les trouve beaucoup plus sereins quand ils jouent. Et après, on sait qu'ils ont une qualité technique. Quand tu vois les joueurs, que ce soit sur les côtés ou au milieu du terrain, je pense qu'il fallait juste leur donner un cadre et ensuite leur laisser
Et là, ce soir, Sam, il y a quand même une électricité chez certains joueurs. Ouais. Alfonso Morera, Hendrick, le mélange avec la qualité technique, la qualité technique et l'intelligence de jeu d'un Tolisso, d'un Khalis Mera, que j'aime beaucoup. Morton, je trouve un peu moins bien défensivement, mais avec le ballon, il est toujours important techniquement.
Ouais, mais dans ce rôle-là de premier relanceur, sans Tessman à côté de lui, c'était lui vraiment qui était recherché à chaque sortie de balle, il perd pas un ballon.
Bien évidemment, mais sur les transitions, je l'ai trouvé un peu gêné quand même globalement, mais bien évidemment qui fait partie des belles trouvailles cette année et de ce qui se fait de bien à l'Olympique Lyonnais. Mais ce mélange mouvement, intensité, électricité, technique, intelligence de jeu, quand c'est récité comme ce soir.
Mais d'ailleurs, Walid, t'as raison.
En première mi-temps, il y a des faits contraires où il peut avoir rouge, il n'y a pas rouge, tu prends un but de dingue et derrière, tu repars au combat, tu repars et tu réimpactes l'adversaire constamment. Moi, je trouve que c'est admirable ce que fait Lyon.
Je trouve que la première mi-temps, elle est pas si maîtrisée que ça de la part de l'OL, mais à l'arrivée, ils marquent quand même sur les deux phases de jeu qui ont rien à voir. Donc ils te montrent qu'en attaque placée, ils sont capables d'avoir l'option Tolisso qui centre sur Yaremchuk, mais aussi en transition d'avoir l'électricité dont tu parles, Hendrick pour Morera. Donc ça fait une palette hyper large à l'arrivée, qui fait que même sur une première mi-temps où ils sont pas archi dominateurs, ils peuvent marquer à tout moment.
Oui, mais sur la première mi-temps, Jean-Louis, OK, c'est pas maîtrisé de bout en bout, mais c'est eux qui veulent impacter, c'est eux
qui veulent. Oui, ça c'est sûr. C'est, ça je l'ai dit au début, l'idée générale, c'est Fonseca, c'est Lyon, on veut prendre le match.
Rennes s'adapte à Lyon, même si, bien évidemment, qu'avec le ballon, ils sont capables en transition avec les espaces de faire mal à l'Olympique Lyonnais. Mais c'est parce que aussi Lyon accepte ce déséquilibre et qu'ils veulent ce match ping-pong.
C'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que pendant une demi-heure, ça ronronne un peu côté lyonnais. Ils ont le ballon, mais ça ronronne un peu.
Il y a un moment, c'est le chaos, il y a un chaos. Voilà. Il y a le boxeur qui a mis le chaos et c'est le penalty de Tolisso, le but de Yaremchuk, le penalty de Tolisso. Et là, à ce moment-là, tu te dis, oulala, comment va réagir Rennes? Et en deuxième mi-temps, la même chose. Il y a 10 minutes, un peu comme ce qu'on a vu en Ligue des Champions, mais à une échelle bien, bien inférieure, où Rennes, en fait, perd les pédales parce que Lyon a été trop, trop fort et a emmené le match à une intensité qui est trop importante. Ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti,
c'est
moi,
ça,
soir.
C'est ça la différence avec, entre Lyon et Rennes, c'est que Rennes qui marque ce premier but, mais tu sens pas Lyon qui se désorganise. Au contraire. Et moi, c'est ça que j'ai aimé. Et alors que Rennes, quand ils prennent le deuxième but, tu te dis, waouh, ça va être compliqué pour eux. Ils sont en difficulté. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça que Lyon, je trouve vraiment qu'ils ont réussi à avoir cette sérénité. Et je pense que ça vient du coach. Réellement, ça vient du coach et des cadres comme Coco Tolisso qui emmènent cette expérience-là.
Il y a le temps additionnel, Sam, où je me suis dit, attention, parce que Rennes, il domine un petit peu le temps additionnel. Il y a une occasion, notamment d'Embolo, que Griff sort bien, etc. Ouais. Et mais par contre, en deuxième mi-temps, bam, ils repartent au combat, donc non, bravo Loël, bravo.
Adem, un truc à rajouter?
Oui, si j'ai des individualités
il va falloir faire l'évaluation.
Vas-y.
Moi j'ai deux joueurs qui ressortent du lot pour moi dans ce match. Déjà à Moreira. Alors Moreira, si tu m'entends, je te donne ma Peugeot 3008, ma maison, ce que j'ai joué. Mais à un moment donné, il faut que tu restes. À un moment donné, il faut que tu restes.
Elle vaut combien, la Peugeot?
Ah ouais, vaut combien, là? Elle est combien de kilomètres, là?
Il y a le contre-technique, il n'y a pas longtemps, il y a tout. Il y a les révisions, les pneus, c'est parfait. Non, mais à un moment donné, il faut qu'il reste. Et puis, je me suis trompé vraiment sur l'adaptation du joueur, parce qu'au début de saison, je me disais, c'est un joueur qui va être trop frêle, qui va mettre du temps, un gros temps d'adaptation, etc. Alors autant je me suis pas trompé pour Strasbourg, mais autant je me suis trompé pour Lyon. Donc franchement, pas pour Moreira, pardon.
Non, mais Moreira, c'est le MIP de la saison. Dans les trophées UNFP, c'est le vrai espoir. En tout cas, c'est celui qui a la plus grosse progression, la révélation, le mec qu'on n'attendait pas, et qui remplace Malik Fofana, qui normalement devait être la saison de la confirmation pour le Belge. Et encore une fois, ce qu'il fait ce soir, mais la détermination dans tout ce qu'il fait.
Ouais, l'intensité qu'il met, les courses qu'il fait, et même sur ses choix, moi je le trouve très très bon. Alors que normalement, des joueurs comme ça qui sont très 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 rapides, tu vois que sur le dernier geste, ils ont du mal. Mais je le trouve très appliqué, même avec les deux pieds.
Il est généreux. Sachant qu'il n'est pas nommé dans les meilleurs espoirs.
Là, oui, mais c'est un problème.
Je remercie Adem au 32-16. Merci Adem. Dans un instant, on est de retour pour l'évaluation. On va parler de Tolisso spécifiquement. Parce que beaucoup de monde.
Il y a du temps,
il y a du temps, t'inquiète. Okay. Regarde, il est 23h12. On a encore 48 minutes ensemble. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h13, Wally Dacher, Samuel Umtiti et Jean-Louis Tour sont là après la victoire de Lyon 4-2 face à Rennes. Donc parlons un peu de Corentin Tolisso. Bon, on va pas refaire le chapitre, Deschamps a perdu son numéro.
Je pense que ça sert plus à rien d'en parler.
Ça sert plus à rien. Ouais. Il y a quand même un truc là dans le match, avant de parler de son impact global. Jean-Louis, quand il prend son KO là, tout début.
À 20 secondes,
En fait, c'est une commotion en vérité. Est-ce que le protocole a été respecté? Moi, je m'attendais à ce qu'il sorte du terrain.
Alors, est-ce que ça peut aussi ne pas être considéré comme un protocole commotion, comme rentrer dans le protocole commotion?
Quand tu vois la façon dont il tombe, tu vois qu'il a perdu.
Honnêtement, je voudrais pas dire de bêtises, mais il prend le coup dans le nez. Est-ce que le nez, c'est vraiment une commotion cérébrale ou est-ce que c'est pas juste douloureux à ce moment-là? Mais c'est vrai que quand il tombe, on a l'impression qu'il est inerte et qu'il a perdu connaissance. C'est ce qu'on s'est dit pendant le match. Après, je sais pas. Effectivement, le protocole commotion, normalement, tu sors et on te revoit plus, mais... Bon, écoute.
D'ailleurs, tu sens qu'il est sonné parce que derrière, il disparaît un peu du match pendant quelques minutes.
Oui, c'est ça, une vingtaine de minutes.
Après, il revient à un niveau. C'est-à-dire qu'il a décidé, il a dit, les gars, le match, là, on perd 1-0. Ok, ça va faire 2-1 à la fin de la mi-temps. C'est bon, j'ai retrouvé mes esprits. Il te met un ballon pour Yaremchuk. Il est exceptionnel, le ballon. Ouais. Déjà, c'est lui qui avait fait basculer le match contre Auxerre la semaine dernière. Bis repetita. Et derrière, il met le penalty. Il le met très, très bien. Et même globalement, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il réalise, analyse, le leadership, tu vois le nombre d'images où il harangue ses joueurs en disant hey, les gars, on prend pas de but, les gars, on est concentré, on est focus. Voilà, il a fait un match de légende du club de l'Olympique Lyonnais. Entre ce qu'il a fait l'année dernière, ce qu'il fait cette année, parce que l'année dernière, faut pas oublier que dans le sprint final, il prend rouge contre United où il fait un super match, derrière il sort blessé contre Saint-Étienne avec un l'attentat là de Stassin. Derrière, ça avait fait beaucoup de mal à Lyon, et là cette année, il a été géré là parce qu'il a eu un gros trou physique pendant un mois.
D'ailleurs, je sais pas si t'as
il reçoit un niveau exceptionnel
sur le creux physique qu'il a eu là.
Dans cette période, quand tu donnes énormément, il a donné énormément sur le terrain, et je pense que mentalement aussi ça joue. Et avec toute cette pression, en plus, on en parlait énormément de retourner en équipe de France, ça pèse. Ça pèse énormément, et je pense que comme il l'a si bien dit, au bout d'un moment, stop, j'ai plus envie d'en parler, je vais me préoccuper du terrain. Et quand il est revenu, il a montré à tout le monde, vous inquiétez pas, je suis là, je suis encore là. Mais je pense que dans une saison, c'est normal d'avoir aussi une période de moins bien, mais ensuite de revenir. Et le niveau qu'il est en train de montrer, pour moi, c'est top.
Et il a été bien géré par Fonseca aussi, parce qu'il joue pas contre PSG.
Il joue pas contre
Lorient en deuxième mi-temps avec Hendrick. Et en première mi-temps, ils sont en grande difficulté. Ils doivent pour moi être menés. Et derrière, c'est lui qui est impactant sur les deux buts. Contre Auxerre, il démarre sur le banc. Pareil. Il fait 30 minutes. C'est lui qui fait la différence. Et là, ce soir, c'est encore lui qui fait la différence. Il a des images sur le sprint, la finale, pour aller chercher une Ligue des Champions. C'est ouf. Et puis, c'est tellement le symbole de ce club, le brassard de capitaine.
Et il y a un truc aussi, moi, je trouve déjà sur son positionnement, où il est déchargé quasiment de la création du jeu, des premières relances, des premières passes, où moi je l'ai vu être parfois en deuxième attaquant à côté d'Yaremchuk, parfois en position d'ailier gauche. Quand il envoie son centre, il est très haut, donc déjà je l'ai trouvé très haut sur le terrain, ce qui est inhabituel par rapport à son début de carrière. Et ensuite, moi j'aime bien la scène du penalty où il a le ballon, c'est lui qui va tirer, et il y a quand même Hendrick qui vient à côté, sous-entendu, si tu veux me la laisser, je la prendrait bien, etc. Tolisso, il dit non. Là, il y a Niakate qui arrive et qui prend Hendrick et qui l'emmène à côté. Et je trouve que ça aussi, ça montre un vestiaire tenu par des cadres. Tolisso, Hendrick, qui sont aussi les garants de ce genre de moment et qui me semble important.
Ouais, et c'est le chef. C'est lui le chef. C'est le boss. C'est le big boss de cette équipe. Et c'est là où on voit que quand tu as des leaders dans un club et que tout est répertorié, tout le monde sait qui est qui, et comment l'équipe doit être agencée, tout va bien. Et Tolisso fait partie de cette colonne vertébrale qui te permet de te tenir même quand ça va un peu moins bien, avec Niakate, avec Griff notamment, avec Morton, on en a parlé, et bravo Tolisso.
Homme du match donc Tolisso. Rémi est avec nous, il sort du stade. Rémi, salut.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bon, on vient d'être totalement élogieux sur Tolisso. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Est-ce que la blessure d'étiqueté, ça ne peut pas jouer sur...
Ah non, on a dit qu'on n'en parlait plus.
Non, on n'en parle plus.
C'est pas tout à fait le même poste.
Par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis...
La blessure d'étiqueté, c'est pour le pôle.
Moi, pourquoi j'en suis revenu sur l'équipe de France, c'est parce que dans son rôle... Le rôle qu'a aujourd'hui Tolisso, il a une liberté pour être très très bon dans une équipe de football par rapport à son âge qui a avancé, qu'il ne pourra jamais avoir en équipe de France. Parce que le poste qu'il a actuellement à Lyon, c'est plus un 6, c'est plus un 8 dans un double pivot, c'est un mec qui est mobile, c'est un mec qui arrive deuxième lame lancée dans la surface de réparation, et je pense que il sera pas titulaire en équipe de France et que...
Tout à fait. Par contre, sur les matchs à élimination directe, quand on arrive en 8e, quart de finale, un joueur de cette expérience-là, ça peut faire la différence.
Je vais poser une question.
Le concurrent à Tolisso, c'est qui? C'est
Camavinga ou Tolisso?
Oui, mais en fait, c'est plus le même rôle pour.
Actuellement, c'est Tolisso, mais
bien sûr.
Camavinga, il est au
club. Non, mais si tu prends sur la.
Là, c'est Olise ou Tolisso, tu vois.
Voilà. C'est aussi Mbappé ou Tolisso.
Non. Walid va dire Tolisso.
Non, mais pour moi, en fait, il n'y a même pas de débat parce que de la manière dont joue Coco Corentin à Lyon, il jouera jamais de la même manière en équipe de France parce que c'est pas le même système, c'est pas la même animation, et on va pas lui demander la même chose.
Mais est-ce que physiquement, il est capable de faire à côté de Tchouaméni au poste de numéro 8 alors qu'il y a eu une histoire sans lui?
Mais il est capable de le faire. Il est totalement. S'il est capable de faire box to box,
Explique-moi comment il serait pas capable de jouer en numéro 8. Tu restes à ta position.
Moi, je pense qu'il s'est habitué à ce rôle de deuxième
ligne. Habitué parce qu'on, mais parce qu'on lui a demandé, on lui a demandé ça. Mais on te demande de le faire pour une Coupe du Monde. T'as quelques matchs pour aller là, pour remporter une
oui,
Coupe du Monde.
Oui, mais il a pas le même statut qu'à Lyon. À Lyon, par exemple,
bien
il est
évidemment.
Capable d'être déchargé défensivement
bien
par
évidemment.
Moment. Il a une liberté par rapport okay. à son statut qui sera différente en équipe de France.
Il y a pas de souci, mais je pense qu'en équipe de France, il est capable de jouer numéro 8 sans souci. Mais le problème, c'est que il arrive à un moment où un groupe est déjà fait, où des joueurs
voilà,
bah sont déjà là, ont prouvé certaines choses, et que le coach a dit
est-ce
écoutez,
qu'il a sa place
mon groupe, c'est ça.
Est-ce qu'il a sa place dans 11? Non, pour moi, non.
Non, mais c'est pas.
Donc, aujourd'hui, ce serait quoi? Un joueur d'ajustement, le Tolisso, en Coupe du Monde?
Tout à fait. Mais un joueur d'ajustement, et donc, pour et au cas où pas apporter ça.
Non, mais il pourrait l'apporter. Mais je pense que dans l'idée, Didier Deschamps, il se dit, en sortie de banc, offensivement notamment, bah, je vais prendre un Doué, je suis même pas sûr qu'il soit titulaire.
Bien sûr.
Un Cherki, la même chose. Et donc, j'ai déjà mes gâchettes. Et Tolisso, par rapport au statut où il est champion du monde, qu'il soit 22e, 21e ou 23e dans ma liste, est-ce qu'au final, c'est une chose qui.
Je pense que c'est une personne, tu peux le mettre dans n'importe quel groupe.
Ah, ça oui, non, mais,
ça oui.
Dis pas.
Mais je pense juste que le groupe est déjà fait, donc le débat, il n'y a même pas de voilà, débat pour voilà, moi. Voilà, honnêtement, il n'y en a pas.
Bon, alors, d'ailleurs, lui aussi, on est sûr qu'il est là l'année prochaine?
Oui, bah, il a encore un an de contrat hein, derrière.
Il va faire la Ligue des Champions.
S'il retourne la Ligue des Champions, il sera
ouais,
là.
Ça peut être
vous voyez pas comment il est en train de se battre pour avoir la Ligue des Champions.
Ah oui. Si il n'est pas là la saison prochaine, il se bat pour quoi alors il se bat pour un autre qui va jouer sa place.
Non, quand même pas.
Non, mais il y a un aspect aussi quand même intéressant, c'est le côté un peu garant de l'esprit club. Voilà, parce que c'est aussi ça qu'on voit.
Avec mais moi, je suis fasciné.
Le gars,
parce
il est formé
déjà,
là, il est formé à Lyon. Il revient après avoir joué à l'étranger dans un grand club. Là, tu te dis bon, il est un peu en fin de course. Et puis au final, c'est lui qui est le leader.
Mais moi, je suis fasciné parce que c'est de la même génération que Sam. On fait une émission avec Sam, et c'est pas pour dévaloriser Sam qui a eu une carrière exceptionnelle. Mais t'imagines que le mec est encore là, alors qu'il a fait partie de cette génération avec Lacazette, et il a le brassard de capitaine, et dans une saison compliquée financièrement.
Il n'en a pas eu qu'une de saison compliquée.
Exactement. Et il est passé lui aussi par des problème physique où moi je pensais qu'il était mort finito pour le football. T'as Lacazette qui aujourd'hui en Arabie Saoudite, et l'année dernière il a pas fait une énorme saison parce qu'il y a un moment le corps il dit stop, et lui il continue, et c'est pas juste un joueur d'ajustement, c'est un moteur pour l'équipe, pour le club. C'est sensationnel en fait ce que fait Tolisso. Je sais pas si on se rend compte, c'est fou.
Bah, moi je suis totalement d'accord, c'est que comme tu l'as si bien dit, c'est qu'il a fait des années exceptionnelles avant de partir au Bayern. Au Bayern il a fait des belles choses, mais on sait que physiquement ça a pas forcément été facile. Tu reviens dans ton club, il y aura de l'attente.
Ouais.
C'est dur parce que ce qu'ils ont fait, ils ont fait descendre à un certain moment, mais au final, il a dit OK, moi je suis là, Lyon c'est mon club, je vais bosser, je vais travailler.
Alors il aurait pu être tragique. Avec son retour, il aurait pu être tragique.
Ah oui,
son 16e au classement là.
Écoutez Francaise, on parlera de Rennes un peu plus tard, mais il arrive en conférence de presse.
L'histoire de l'Olympique Lyonnais ne souffre pas de beaucoup de contestation. Ça c'est la première des choses. Après, je pense que l'ascension émotionnelle entre notre égalisation et le troisième but rapide de Lyon nous a certainement fait mal. Et après, qu'on a cherché à égaliser, mais si vous n'êtes pas très structuré ou si vous êtes très ouvert face à une équipe comme Lyon, vous allez non seulement pas aller chercher l'égalisation, mais vous vous ouvrez à toutes ces situations de transition ou d'attaque rapide que...
Bah tiens.
Bah ça a coupé.
Bon, on l'a perdu. Et en fait,
ils ont pris l'idée.
Ah
oui.
Il s'est passé un truc, je sais pas.
Il est parti de la conf, il est revenu.
Mais c'est bizarre ça.
Mais comment ça?
Ah non, pas du tout. Non, en fait, non, ils sont.
C'est un décalage, je pense.
On a un décalage dans le retour.
Non, mais en fait, pardon, j'ai la télé devant les yeux et tout à coup, Francaise, il a disparu, il avait une chaise vide. Comme si c'était dit. Il s'était, mais.
Surtout, le son s'est coupé. C'est-à-dire qu'aussi, avec l'image, on aurait dû comprendre.
Ah non,
il s'est levé au milieu de la phrase.
C'est le tuyau à nous, ce qu'on appelle le trafic. Il y a eu un problème. Je sais pas, est-ce qu'on peut le réentendre là, du coup?
On a compris l'idée. Globale,
bon, vous en foutez, très bien.
Il a dit que la défaite souffrait d'aucune contestation.
Bah oui, elle était logique. Ouais,
logique. Rémi, toujours là?
Oui, toujours là. Est-ce qu'on peut parler également de Morton,
qui a Morton, un rôle qui n'est pas qu'un antivirus, donc.
Non, mais surtout qui est un joueur discret, mais qui ramasse un nombre de ballons au milieu de terrain. Je trouve ça impressionnant pour son âge et d'où il vient.
Ah ouais, d'accord. Ah,
pour moi, c'est la machine à laver. Ah ouais. Du milieu de terrain. Tu lui envoies un ballon un peu dégueulasse, il te le nettoie et il ressort propre. Franchement, c'est impressionnant. Et je sais pas, j'ai pas vu les stats passer individuellement, mais je crois qu'il en a pas perdu beaucoup des ballons.
Non, il a été très propre, et comme vous le dites si bien, je trouve que des joueurs comme ça, on n'en parle pas forcément assez, et c'est des joueurs qui peuvent être dans la difficulté sur un ballon, mais ils ressortent le ballon tellement propre, ils le nettoient. Donc moi, j'aime beaucoup ce genre de joueur, et c'est une pièce pour moi maîtresse sur un match comme ce soir pour Lyon.
Moi, ce soir, c'est plus Abner que je valorise. Je trouve que l'adaptation à ce qu'il veut mettre en place, enfin à ce que le coach veut mettre en place, comment il arrive à le réaliser, je trouve ça très très fort. Et il y a des gestes de grande classe dans la surface de réparation, la bonne passe au bon moment, le bon tempo. Je m'arrête, je fais la pause qu'il faut pour faire le bon choix. Et quand on parlait de la dynamique de défaite, il y avait un Tagliafico qui me sortait par les yeux à chaque fois. Il était dans le combat, je me rappelle un match contre Monaco là où il termine avec un rouge, il était là uniquement pour se faire à Cliouche ou d'autres adversaires, même contre le Celta Vigo. Je trouve que ça a été aussi un bon choix de la part de Fonseca de le mettre, et le Brésilien, il a quand même dû, alors je sais pas si c'est un vrai vrai bon joueur ou si c'est Fonseca qui le rend plus beau qu'il ne l'est, mais ce soir il a fait un gros gros match.
Merci Rémi.
Merci à vous. Et Samuel, j'ai une grosse pensée pour toi parce que je viens d'arriver à Chambert, c'est juste à côté de Ménival.
Ah oui, c'est à côté de chez moi, ça.
Et on t'apprécie toujours autant.
Merci, c'est
gentil.
Merci
d'avoir défendu nos couleurs, comme le fait Corentin Tolisso aujourd'hui.
Avec grand plaisir, merci.
Salut Rémi, à bientôt.
Bonsoir.
Alors, il y a quand même un truc assez bluffant, mine de rien. C'est que quand ça n'allait pas bien pour l'OL, on allumait Hendrick. Mmh. En disant, ouais, finalement, ça marche pas. Et maintenant, comme les autres montent en puissance, il y a Remchouk, Morera et tout, du coup, Hendrick, on l'a un peu oublié.
Moi, je l'ai pas oublié. Non, non, non. Pour moi, ça reste toujours le Hendrick où, pour moi, à certains moments, il est un peu fantomatique, où tu le vois pas, ou même sur sa position, tu sais pas trop ce qu'il est capable de faire, à part, on sait qu'il a un très bon pied, il est capable de délivrer des super centres, et quand il est dans la surface, encore une fois, pour moi, c'est un tueur. C'est un tueur dans la surface, et pour ça, c'est un joueur pour moi qui doit être le plus proche possible de la surface de réparation et pas sur un côté excentré à rester. Non. Et pour moi, il peut apporter à l'Olympique Lyonnais que comme ça, et on le voit encore ce soir, il est dans la surface, filoche.
Mais non, moi je le sors pas de l'équation, Gilbert. Moi, sur la séquence, la bonne séquence, PSG, Lorient et encore ce soir, Hendrick fait partie des tops du côté de l'Olympique Lyonnais. Il génère énormément. Alors oui, il y a
deux, trois... ça va mieux.
Ah oui. Et moi, je trouve que la gestion, tu vois, on parle souvent avec l'Olympique de Marseille des prises de position des dirigeants. Moi, quand Fonseca a dit après Angers que Hendrick devait faire beaucoup mieux et que ça l'a quand même réveillé, Hendrick, depuis, hein, il l'a mis sur le banc et il a eu la bonne réaction, comme quoi en fait c'est souvent les réactions des acteurs aussi qui comptent. C'est comment tu prends la pique de ton entraîneur, et moi je trouve que son état d'esprit a été parfait, alors qu'il pouvait laisser à désirer. Moi, j'étais de ceux qui pensaient, et je vais l'assumer ce soir, je me disais bon, c'est bon, il a retrouvé le Brésil, il va sûrement aller à la Coupe du Monde, c'était son tapis de course l'Olympique Lyonnais, il n'en aura plus rien à cirer, en plus il n'y a plus la Ligue Europa. Et bah il s'est remis dedans, et tout ce qu'il fait avec le ballon, par rapport au football moderne, est-ce que demande la Ligue 1, c'est quand même une aide précieuse. Et moi, j'irais même plus loin, Gilbert, c'est que si ça se matérialise par une Ligue des Champions, moi, j'aimerais bien qu'Hendrick enchaîne un deuxième prêt à l'Olympique Lyonnais.
Ouais,
moi,
tu sais, ouais, je sais pas si c'est jouable.
Non, mais c'est peut-être un fantasme.
Que lui, il voudra pas.
C'est peut-être un fantasme. Non, mais bien évidemment, je te dis pas qu'Hendrick voudra ou pas.
T'as une Coupe du Monde derrière, tu sais pas ce qu'il va faire.
Mais moi, je pense que si c'est réalisable, et si Hendrick veut continuer s'il a pas de place au Real Madrid ou ailleurs, ça peut être aussi une possibilité.
Non, mais sinon tu le laisses au Real en début de saison prochaine, il est de nouveau sur le banc, il revient en janvier, tu vois.
Aussi.
Au fin août.
Voilà. Ça serait bien quand même de l'avoir avant janvier.
Pour la Ligue des Champions avec Hendrick, ça peut être pas mal aussi, je pense.
Moi, j'étais d'accord avec Walid. Hein. Je pensais aussi que sa saison, elle était finie un moment, qu'il allait relâcher, etc. Et c'est toute l'importance d'un cadre pour ce genre de joueur. T'as parlé de Fonseca qui l'a mis sur le banc. Je pense aussi que d'avoir des cadres dans le vestiaire, c'est important pour lui. Et ça donne que on ne garde que le bon. Parce qu'il y a quand même du mauvais aussi dans Hendrick. Hein. Parfois, il comprend pas du tout le jeu. Hein.
Ah ouais.
Il y a plein d'actions, on s'arrache les cheveux avec Hendrick. Le seul truc dans le jeu qu'il a compris, c'est les transitions. Au parc, il lance Alfonso Morera en contre-attaque. Là, il fait exactement la même chose sur le penalty qu'il obtient. Et on sait que dans la surface, il peut être buteur. Par contre, comme le disait Sam, quand il touche le ballon un peu trop excentré, un peu trop bas, et qu'il faut créer du jeu, ça, il sait pas encore.
Après, ça reste un joueur moderne où en fait, le volume le récompense à la fin du match. Jean-Louis. C'est-à-dire que il y a à boire et à manger, t'es dans un buffet à volonté, tu prends pas tout, mais par contre, à la fin, t'en avais quand même eu pour ton argent et sur la fiche de stade,
comme il doute pas, le ballon qu'il y aura dans la surface, il sera là.
Voilà, et
il
quand même dans le bénéfice.
Toi, tu sais parler à Jean-Louis.
Non, mais.
Tu parles de buffet à volonté. Donc Jean-Louis fait, oui, c'est vrai, c'est bien.
Tous des gourmands, moi, à chaque comparaison, une comparaison sur deux, c'est de la bouffe. Donc ça, vous.
Il parle pour lui, là.
Je pense qu'il faut pas me lâcher avec Walid dans un buffet à volonté.
Ah oui, vous deux, bravo.
Dans un instant Rennes les gars et on attend Fonseca également en conférence de presse donc supporter Rennes on vous attend au 32-16 pour analyser le match de votre équipe et puis les autres rencontres du jour. La Ligue 1 est au programme jusqu'à minuit dans l'after. Je précise que le Real a gagné définitivement 2-0 face à l'Espagnol ce soir, donc le titre du Barça est repoussé de quelques jours. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h33. Ils sont là, Samuel Umtiti, Walid Acharchouré et Jean-Louis Tour. Rennes, les gars, accueillons Victor, qui est supporter rennais et qui est avec nous au 32-16. Victor, bonsoir.
Oui, bonsoir, messieurs.
Bon.
J'espère que vous allez bien.
Bah oui, ça va et toi?
Ça va, Victor.
Ça va, nickel.
Ça va, merci.
Bon, alors Rennes reste dans la course pour les places européennes, je vais le dire comme ça, voire même pour la quatrième qui pourrait t'emmener toi, tu vas me dire, il n'y a que 4 points d'écart avec Lyon, donc tu peux peut-être encore y croire, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu vises désormais?
Je vise l'Europa League, parce qu'on revient de loin depuis le départ d'Abid Bey.
Victor, je suis désolé, mais non seulement Lyon t'a battu, mais en plus Lyon te coupe la parole, puisque Fonseca vient de s'installer en conférence de presse. Donc on te reprend dans quelques instants, on écoute le coach lyonnais.
On a fait un grand match, incroyable match de foot, incroyable, magnifique match de notre équipe. 3 points importants. Et je dois dire que c'est pas facile commencer le match et prendre un but qui était magnifique, peut-être le but de la saison, hein, était un geste technique incroyable. Mais l'équipe avait l'équilibre, une réaction très équilibrée et on a continué à faire le notre jeu. Je pense que naturellement, on a fait 2 buts, nous pouvons faire plus. Et après, commencer le deuxième temps avec un autre but de Rennes. Et l'équipe avait une autre fois une réaction très, très forte. Et à la fin, je pense qu'on a fait 4, mais nous pouvons faire plus but. C'était une victoire magnifique, importante, en ce moment.
Bon, on va voir si la question suivante est intéressante.
De notre équipe, peut-être.
Non, on l'a pas entendu.
Peut-être.
Est-ce que c'est le meilleur match de la saison?
Ah,
si je dois pronostiquer la question. Parce qu'il dit oui,
le match avec Paris peut-être était le meilleur jeu défensivement. Voilà, mais je pense que
la vision
aujourd'hui était un jour différent.
Pronostiquer la question.
On a créé beaucoup d'occasions. On a dominé le match. J'aime gagner, mais j'aime gagner plus comme ça.
Parlez plutôt du match aller contre Paris, où Paris avait été inexistant en entraînement ici.
Ah bon, ils sont partis pour s'amuser à comparer les grands matchs de Lyon, je pense pas que c'est un intérêt réel pour nous. Donc on va passer, on écoute en coulisses le.
Mais c'est bien, c'est intéressant parce qu'il dit quand même que contre le PSG c'était circonstanciel de défendre et de gagner de cette manière, mais que il préfère quand même envoyer du spectacle comme on avait vu ce soir.
Juste, on l'a pas dit, mais il va falloir qu'il gère Fofana là.
Ouais, enfin, j'ai juste à dire.
Bah non, mais
il tire la tronche parce qu'il était sur le point de rentrer.
Bah voilà.
Et que Fonseca a changé d'avis au dernier moment en mettant Narté finalement. Bon, ouais, c'est pas très grave non plus, c'est l'affaire de
sans lui,
semaine.
On verra ce qui se passera à la fin de la saison, mais il n'y a pas un cas où Fofana doit passer devant Alfonso Moreira sur les deux derniers matchs. Hein.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est normal qu'il soit peut-être impatient, qu'il devait rentrer.
C'était la star de l'équipe il y a 6 mois, le mec.
6 mois dans le foot, ça va vite.
Ça va très vite. D'une semaine à l'autre, tu veux. Ouais.
Victor, on revient à Rennes, excuse-nous.
Pas de souci. Donc, moi, je disais que je ne crache pas sur l'Europa League parce qu'on revient d'une période d'instabilité assez importante à Rennes. Et sur ce match-là, c'est dommage parce qu'en première mi-temps, je nous ai trouvé bien efficaces offensivement, contrairement à d'habitude. Et je nous ai trouvé très agressifs dans l'impact. Et ça, c'est une bonne chose à Rennes qui a plutôt tendance à être tendre. Et ce qui est dommage, je trouve, c'est un peu le manque de réaction de Francaise qui met pas un troisième joueur au milieu de terrain pour bloquer Tolisso un petit peu qui était trop libre selon moi.
Bon, Rennes sortait de 4 victoires en plus sur le
je suis d'accord côté avec tactique, toi. Là. Moi globalement, j'étais déçu du match rennais. Alors, il y a eu de la transition et ils ont été très efficaces. Notamment, le premier but, il est sensationnel. Hein, l'ouverture de Lepaule et le but de Altamari, je suis d'accord avec Fonseca, c'est pas loin d'être le plus beau but de l'année. Derrière, à la récupération du ballon, sur la première mi-temps, ils ont bien boxé. Il y a eu des situations. Maintenant, je trouve que tactiquement, plus ça avançait, plus c'est vrai que le 4-4-2 n'était pas viable sur la durée. Je pensais que Francaise allait réajuster. Et il faut dire aussi que Rennes, sur les derniers matchs, ça gagne. Il y a 4 victoires de suite, mais ils ont joué les U19 de Strasbourg. Ils ont joué contre Nantes la semaine dernière. Moi, Nantes doit gagner le match ou doit faire un résultat par rapport au contenu qu'ils avaient proposé en deuxième mi-temps. Nantes est bien meilleur que Rennes. Et là, tu disais, je me contente de l'Europa League. Oui, ce sera très bien d'aller chercher l'Europa League parce que tu reçois le PFC qui est en feu. La semaine prochaine, et derrière, bon, tu vas à l'Olympique de Marseille et Marseille, s'ils gagnent contre Le Havre, ils peuvent passer en te battant à la maison. Bon, c'est hypothétique, hein, mais ils peuvent te passer devant par rapport à la différence de but. Donc attention à Rennes sur la fin de saison. Va falloir montrer aussi un peu plus de contenu parce que ok, les 4 victoires, mais il va falloir que ça dure sur les 2 prochains matchs. Le calendrier de Rennes, on l'avait dit, hein, sur les 3 derniers, c'est aller à Lyon, recevoir le PFC, aller à Marseille. Il va falloir aller la chercher, même cette place en Ligue Europa. Parce que Monaco, derrière, ils vont peut-être pousser. Voilà, attention à Rennes.
Ça ouais, c'est plus énorme, peur du PFC que de Marseille.
Ah oui, mais c'est sûr que Marseille est tellement malade, il n'y a pas de souci. Mais sur un dernier match, faudra être sérieux pour aller gagner là-bas ou pour aller faire un résultat aussi.
Hein. Non, mais je pense que quand même cette équipe de Rennes, toutes ces équipes-là qui sur le sprint final. Il n'y a pas un match plus facile que l'autre. Honnêtement, il n'y en a pas un plus facile que l'autre. Que ça soit Paris FC, ça va être compliqué parce que même si ils ont clairement plus rien à jouer parce qu'ils sont déjà maintenus, mais avec leur entraîneur qui leur laisse rien faire et qui va leur dire, écoutez, avant de vous laisser en vacances, il reste 2 matchs à jouer, donc vous devez être performant.
Ils jouent relâché.
Voilà, jouer relâché. Et après, Marseille, on sait très bien qu'ils sont malades, mais même s'ils sont malades, c'est une équipe qui a besoin de points.
Attention, hein, ça peut être un match.
Exactement.
Même si c'est pour la conférence non, ligue, pour eux, c'est l'enjeu.
Exactement. Quoi, mais toutes les équipes là, sur les 2 derniers matchs, ils ont des.
PFC, on en parlera demain, mais je suis persuadé que pour l'image, ils vont tout faire. Afin d'aller chercher la 9e place de Lorient.
Allez, une place au-dessus.
Ils sont à un point de Lorient et ils sont à égalité de points avec Toulouse. Ils sont 11e aujourd'hui. De faire une première saison en Ligue 1 à la 9e place alors qu'ils étaient dans le bas de classement pendant toute l'année. Je pense qu'en termes de communication, ça sera important pour eux. Donc tous les matchs jusqu'à la fin de saison, ils vont les jouer à fond.
Jean-Louis, sur Rennes.
Oui, sur Rennes. Bah, moi, je voulais revenir juste sur le match ce soir. Je trouve, et à mon avis, ça va être la marge de progression pour la suite. Le déficit, il est au milieu de terrain. C'est-à-dire que ça manque de joueurs vraiment. Il y a des joueurs d'impact au milieu de terrain. Camara, Rongier, mais ça manque, et je le dis depuis le début de la saison, même avec Bay, j'avais noté ça. Ça manque de maîtrise du tempo, de joueurs au milieu de terrain capables de gérer vraiment les moments du match. Donc, là, ils sont dans le truc inverse qui est de, en gros, être tout le temps en intensité max, d'aller chercher les attaquants, d'aller chercher les ailiers et d'être à 100 à l'heure. Et bah à ce jeu-là, forcément, ils ont explosé contre Lyon. C'est un peu ce qu'a dit Francaise dans la conférence de presse. Si tu manques de maîtrise et que t'es tout le temps à essayer d'envoyer du jeu, bah il y a un moment où Lyon ils te punissent et c'est pour ça qu'ils ont explosé en deuxième période. Donc à mon avis, recruter des joueurs capables de gérer le tempo, ça va être l'enjeu des mois à venir.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi.
Les gars, alerte Hendrick, les gars. Ah. Il vient de dire sur Liga Plus.
Pourquoi pas rester?
Non.
Il vient de le dire sur Liga Plus.
Bah voilà, les gars.
Non, mais entre le dire
mais et j'avais
le
l'info faire. Les gars
non, mais d'accord mais oui. Le dire et le faire après parler avec le Real
déjà, c'est pas lui qui va choisir après,
mais les gars vous n'avez pas compris, j'avais la vision sur la question aussi. À Fonseca j'avais la vision aussi sur la question
incroyable. Attends, vous allez se passer,
il va être tout seul. Les gars, vous respectez pas, les gars, vous me respectez pas.
Non mais attendez, attendez, que lui ait envie de rester, c'est quand même une grosse évolution.
Parce
que
Jean-Louis.
Au moment du prêt, l'agent disait tout de suite non, mais ça ira pas plus loin que 6 mois, etc. S'il ouvre la porte, le Real a son mot à dire, mais quand même, si le joueur a envie de rester à Lyon, ça joue beaucoup.
Non mais déjà, le Real aura son mot à dire, et le Real aura son mot à dire, et le Real aura son mot à dire. Donc en fait, là, ce que vous êtes en train de me dire.
Le Real va décider,
c'est tout. C'est que c'est le Real qui va un peu décider par rapport sûrement à une pré-saison et aussi à la Coupe du Monde qu'il va faire. Pour moi, qui va être super important, donc c'est pas du tout le temps de jeu qu'il aura.
Mais 8 buts.
Voilà, exactement. Oui. Donc c'est bien. Je pense qu'il le fait parce que il a reçu énormément de confiance de la part du coach.
Et d'amour.
Et du club et des supporters. Donc pour moi, c'est normal qu'il parle comme ça. Et c'est très bien.
Ah bon, moi, je suis pas d'accord, Sam. Je pense
Non, je te dis pas qu'il le pense pas. Il le pense et il le dit comme ça. Mais je pense qu'il le sait aussi. Ça ne dépendra pas de lui.
Tu sais que les joueurs, je vais pas te le faire. Je vais pas te raconter d'histoire. Dis-moi. C'est mieux que moi. Mais tu sais que les joueurs, peut-être, ouais, j'ai fait un one shot à Lyon 6 mois, et moi, ce que j'ai envie que d'une chose, c'est d'aller me battre pour le Real Madrid et d'aller trouver ma place. Ouais, là, il envoie quand même un signal en disant, bon, les gars, moi, je suis bien ici, s'il y a la Ligue des Champions, pourquoi pas? Je trouve que c'est quand même,
moi, en creux, tu peux aussi dire, les mecs, je sais pas du tout si je vais jouer au Real, alors qu'ici, je vais jouer et la Ligue des Champions.
Non, mais Wally, ce que je te dis, c'est très bien. Moi, je suis content qu'il dise ça. Et un joueur comme ça, qui joue au Real Madrid, et qu'on te dit, viens jouer à Lyon, et il le fait de cette manière-là, c'est très bien qu'il parle comme ça. Mais je te dis qu'entre ce qu'il dit et ce qui va se passer,
bien sûr.
Que je te dis que c'est pas lui qui va prendre la décision, je pense, en tout cas, finale. Bon.
Pardon, du coup, on revient à Rennes, parce que Victor est toujours avec nous. Et Jean-Louis, tu parlais du milieu de terrain. Non, on avait fini sur le milieu de terrain.
J'avais fini. Ouais, et Sam était en train de dire qu'il était d'accord avec moi.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Rennes, ils ont des milieux qui sont très, à certains moments, qui peuvent aller dans l'engagement. Et même avec le ballon, je trouve, il leur manque quelqu'un qui est dans cette, comme tu disais, de gérer ce tempo, tu vois,
du match. Mais je préfère le 4-3-3 au 4-4-2, moi.
Exactement. Et en plus, dans le 4-4-2, je trouve que t'es souvent en infériorité.
Moi, je préférais Szymanski un peu plus axial.
Mais je pensais qu'il allait se réaxer un peu plus, Szymanski. Effectivement, il a collé la ligne.
Après, c'est aussi des intentions de jeu où il veut mettre Le Paul autour d'Embolo. Moi, je reste persuadé que Le Paul, il est meilleur en neuf tout seul. Même si Embolo.
Je suis d'accord. Moi, cette association, j'ai l'impression de ne pas avoir vu de vrais bons matchs avec ces deux-là.
Ouais. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence dans l'état d'esprit, dans le leadership. Sur certains matchs, il y a eu une différence au début, notamment PSG, OCR, Nice. Mais je trouve qu'on est en train de rentrer dans le rang. Moi, ce footballistiquement, en tout cas dans le contenu, ça gagne. Mais dans le contenu, footballistiquement, même sur le match Rennes-Angers en deuxième mi-temps, je trouve qu'on se rapproche de ce qu'on voyait par moment avec Habib Bey, sauf que ça gagnait et il va falloir réenclencher sur le match du PFC parce que sinon les résultats les objectifs seront pas remplis à la fin de la saison.
Victor ?
Oui ?
T'es là ?
Je suis là toujours.
Le Paul a encore marqué, Victor.
Bah, il est incroyable, hein ?
Ouais.
Et mets-moi ce que je tiens à souligner.
Il n'est même pas cité dans les trophées UNFP comme joueur de la saison.
Ouais, bah, écoute,
il va finir meilleur buteur.
Mais il a surtout beaucoup progressé dans le jeu, je trouvais, dans la qualité de passe.
Bah, il fait une passe sur le premier, il est quand même buteur sur le deuxième, donc ouais, heureusement qu'il est encore là et il sent très très bien le jeu.
Passe sur le premier, Walid, je me permets quand même, on peut pas dire que c'est une vraie passe décisive non plus. Il y a un peu de boulot à faire derrière quand même.
Je dis pas que c'est une passe décisive, bien évidemment, parce que le but il est exceptionnel.
Mais t'as raison, il aura une passe.
Il joue une zone.
Il veut pas
la donner à Altamari de cette manière et il s'imagine pas qu'il y a but, mais en tout cas il veut faire avancer le jeu et il est quand même dans le coup et sur le deuxième but il a le bon déplacement, il attend en retrait, je trouve que de toute façon on le découvre pas, mais il a une finesse que ce soit dans tout ce qu'il réalise avec et sans le ballon qui est intéressant, même s'il doit encore progresser dans le jeu associatif.
Ouais, parce que c'est lui qui perd la balle sur le but de, je sais plus, de Moreira, je crois, qui est en face à face avec Samba. Il fait une mauvaise remise sur Szymanski et on se fait punir.
Sur le but de Moreira, c'est Seydou qui fait n'importe quoi et qui couvre Seydou, tout le monde au lieu de laisser Moreira partir.
Ouais, Seydou couvre, mais à la base c'est le.
Oui, oui. Après t'as le droit de perdre un ballon aussi.
Exactement, t'as le droit d'avoir.
Et par contre, il y a un truc sur la projection des derniers matchs, c'est que Samba sera pas là contre Marseille, alors que Samba n'a rien à voir dans le coup sur le penalty avec Moreira. Pour moi, c'est rouge de Altamari et c'est pas jaune de Samba.
Et c'est un peu difficile parce que les deux sont contact.
En tout cas, il n'y a pas faute de Samba.
C'est Altamari,
c'est le joueur.
Pour moi, c'est Altamari. Soit que pour moi, Turpin se trompe. Mais Samba, tu perds Samba sur le dernier match contre l'OM. Quand on avait vu le numéro 2, je crois que c'était le numéro 2 ou le numéro 3 qui avait joué contre Lens quand Habib Bey l'avait sorti. Ça, c'est une grosse perte pour Rennes sur le dernier match.
Silistri, il s'appelle, oui.
Il avait été en grande difficulté contre
Victor, merci beaucoup.
Merci à vous, merci pour l'accueil.
Salut.
T'auras le but de l'année quand même, hein, a priori, au trophée UNF.
J'espère.
Pourquoi il est en lice? Il peut pas être lice.
Bah non, c'est fini.
Ah non, c'est déjà sorti. Ah oui.
Vu qu'ils le font deux mois avant.
C'est ça aussi, cette histoire de mettre les nommés alors que.
Ils ont qu'à le faire il y a trois mois aussi.
Ouais, fallait le
faire. Mais toi, t'aurais fait comment alors?
C'est compliqué, mais moi.
Bah oui, c'est compliqué, non, c'est ça.
C'est facile.
Bah, tu l'as fait après la dernière journée.
Je vais faire à David Terrier qu'ils arrêtent les trophées UNFP, on va faire les trophées RMC. On va mieux organiser ça. On va le faire à la fin de la saison. Voilà, on va pas faire voter 4000 mecs qui s'en foutent. On va prendre des gens sérieux, des Oumtiti, des Acherchour, des Tours. Voilà, on va faire.
En plus, Sam, c'est très facile. T'attends la dernière journée. Tu fais voter les gens sur le téléphone avec des smartphones et puis c'est réglé. Je sais pas moi, avec des applis.
Et puis non, et puis
c'est un groupe WhatsApp et hop, c'est réglé.
Et surtout, tu le fais le lendemain.
Oui, mais d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que tu vas inviter qui? Tout le monde, en fait?
Tu fais le lendemain de la dernière journée.
D'accord, mais au final, les gens, ils doivent s'organiser, ils ont une vie.
Tu fais le lendemain de la dernière journée, tu fais en mode Koh-Lanta, c'est-à-dire que.
Non, mais voilà.
Quand t'arrives dans la cérémonie, avant la cérémonie, il y a une pièce où les joueurs, avant d'intégrer la salle, etc., ils font leur truc. Aujourd'hui, il y a des smartphones, il y a plein de choses, il y a les tablettes, à la fin, t'as le pourcentage, etc. Mais je suis désolé, Tolisso.
Si t'es pas pris, tu rentres pas dans la salle.
Tolisso, s'il met but. Contre Lens, but encore contre.
Il va finir troisième et il va pas être nommé.
Et il va faire troisième et il sera pas nommé. Alfonso Moreira, enfin il y a des choses. Là, sur le meilleur entraîneur, tu sais pas si le mec il va. Genesio, ça se trouve, il va terminer 6, il va terminer 3. En fait, il y a un moment donné.
Donc tu le fais quand? Après la dernière journée?
C'est compliqué. Oui. C'est compliqué, ça. Mais il y a mieux à faire. Pour moi, il y a mieux à faire. Sinon, tu le fais début de saison prochaine.
Excuse-moi, tu fais t'attends la dernière journée et tu fais la veille de la finale de la Coupe de France, et puis voilà, et puis les lauréats ils sont là, ils décalent leurs vacances de 3 jours.
Exactement.
D'accord, ok.
Et après, le problème, c'est qu'ils partent en vacances, les joueurs, ils te diront.
C'est ça. Mais attends, j'ai une question. Bon. Ils ont mis qui dans les.
Non, mais non, là, c'est catastrophique.
Ils ont mis Désiré Doué, apparemment.
Dans les espoirs.
Joao Neves, Zaïre Emery.
Mais ça, c'est par rapport à quoi l'âge?
Oui, par rapport à
c'est n'importe quoi. Ça.
Ah mais donc on s'est déjà.
Par exemple, Esteban Le Poll, pour moi c'est plus une. Enfin, il était
Le Poll, il doit être quelque part.
Il doit être quelque part.
Bah oui.
En fait, pour moi, tu dois faire MIP, c'est-à-dire la plus grande progression ou la plus grande découverte. Tu dois pas. En fait, aujourd'hui, les mecs qui pètent à 17 ans. Bouadi, ça se trouve, il va refaire 3 ans.
Tu vois, Wayne, si on faisait les trophées RMC, on pourrait faire la plus grande déception.
Ouais.
On pourrait faire le pied carré. On pourrait faire la passoire pour les gardiens. On pourrait s'amuser.
En fait, le but c'est qu'ils viennent quand même. Qu'il y a les photos,
tu prends Instagram.
Bah oui, lui va la faire tout seul. Ouais.
J'ai les noms sur les passoires. Un instant, Lille, puisque vous vouliez en parler, peut-être Strasbourg si on a le temps. Si on n'a pas le temps, c'est pas grave.
Si on a le temps, mais sinon on en parlera demain.
Exactement. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h51, n'oubliez pas que nous avons une grande semaine sur RMC avec les Coupes d'Europe. On pourrait avoir, c'est Samuel Boilly, un truc de dingue, on pourrait avoir deux clubs français qui se qualifient pour deux finales de Coupe d'Europe en l'espace de 48 heures.
Ouais.
C'est un truc de fou, ça.
La première, je crois, depuis 2004, il me semble.
Ça fait un moment. Ouais.
Paris mercredi, Strasbourg jeudi. Donc, on croise les doigts pour les deux clubs, bien sûr. Alors, Lille, tu voulais en dire un mot, Walid?
Oui,
important, parce que c'est la course, là aussi, à la Ligue des Champions. Et quand même, c'est un couac pour les Lillois aujourd'hui de ne pas avoir battu Le Havre chez eux.
Ouais, gros couac. Enfin, même si Le Havre est en lutte pour le maintien, il fallait aller chercher un point. On a vu une équipe lilloise qui a quand même mis les ingrédients pour aller gagner ce match-là. Ils ont eu les occasions jusqu'au bout. Hein. Ils ont tenté avec encore une fois un Fernandes Pardo mobile, avec un Bouadji très intéressant dans l'élaboration du jeu au milieu de terrain. De toute façon, on la connaît, hein, cette équipe. J'ai même trouvé N'Goy aussi très très solide derrière. Je trouve que il a fait un gros match. Mais ils sont tombés sur un Morillo incroyable. Ils se sont fait piéger aussi parce que Le Havre a bien démarré le match et derrière ils ont été un peu plus en difficulté, mais ils ont réussi juste après l'ouverture du score. Ils ont réagi rapidement avec ce but de Soumaré. Et derrière, malgré les entrants, Giroud, ils ont buté sur cette défense havraise. Et c'est vrai que c'est un c'est une déception parce qu'il y avait moyen de recoller à cette troisième place. Et là, ils vont à Monaco la semaine prochaine. Monaco qui s'est un peu relancé dans la course européenne, soit la quatrième, soit la cinquième place. Et derrière, ils vont recevoir Auxerre qui sera sûrement en lutte pour le barrage ou pour le maintien jusqu'au bout. Donc c'est pas fini pour Lille pour aller chercher cette troisième place. Mais c'est quand même une déception de ne pas avoir réussi à concrétiser leurs occasions ce soir.
Ouais. Après, tu sais, toutes ces équipes-là, ces 3-4 équipes qui vont se battre pour la 3e et la 4e place, elles ont, pour moi, il n'y a plus de calendrier facile.
Honnêtement,
tu vas jouer face à une équipe qui n'a plus rien à jouer, mais au final, elle va être totalement décomplexée, elle va jouer, et ça va être compliqué pour toi.
Donc, avec les jeunes qui veulent se montrer,
exactement.
Là, j'ai vu Metz hier, contre Monaco, ils ont mis un feu à Monaco, alors qu'ils sont 18e, ils sont Ligue
2. Donc, au final, là, il n'y a plus vraiment de calcul à faire, et c'est vrai que c'est une déception, là, pour nos amis lillois qui restaient pour moi sur une dynamique assez positive et là sur la fin de championnat on sait que le plus important c'est les 3 points, c'est tout ce qui va compter à la fin, donc s'ils veulent atteindre leur objectif, c'est de faire beaucoup mieux en tout cas sur l'efficacité parce qu'ils ont eu des occasions.
Ralfson très bon lui aussi on en parle Ralfson, pas assez mais c'était son jumeau sur les 6 premiers mois jusqu'à février, je crois que c'est le match contre Rennes ou contre Marseille qu'il le relance, mais quand il est comme ça en première mi-temps il met une talonnade sur une grosse occasion de Fernandez Pardo, il sent le jeu, il met de l'intensité
sur le but, il sent le but,
il est très beau dans sa conception et il termine très très bien mais ils ont pas été, franchement ils auraient mérité de le gagner ce match-là. Attention, le match contre Monaco va être très très important pour la 3e et la 4e place parce que ce serait quand même décevant d'avoir fait un run incroyable avec ce 12-15 là, ce 13-15 pour se relancer s'il n'y a pas au moins la 4e place, parce que pour moi c'est quand même les favoris à la 4e place, ce sera quand même une légère déception.
Un mot de Strasbourg, tu voulais en parler. Alors juste, je vous donne des nouvelles d'Emega qui s'est blessé en fin de match. En fait, je vous donne des nouvelles par l'intermédiaire de Ronald Koeman qui est sur la télé néerlandaise, a déclaré que c'était une mauvaise nouvelle. Alors je ne sais pas s'il a plus d'infos que nous, mais en tout cas parce que Emega a été éventuellement présenté pour la Coupe du Monde.
Oui, bien sûr.
Et donc là, il s'est blessé aux ischio-jambiers. Qu'en est-il? On n'a pas plus d'infos ce soir. Mais bon, il est rentré en fin de match et il s'est blessé à la toute fin. Là, il était en pleurs à la fin du match, Emega.
Ouais, quand t'arrives en fin de saison comme ça, en plus avec une grosse compétition juste derrière, on sait très bien que c'est compliqué.
Saison, elle est terrible.
Ouais, c'est avec énormément de blessures. Il a dû gérer aussi ce transfert, on va dire à Chelsea.
Il a mal géré le transfert.
Ouais, c'est pas forcément facile. Et quand on le voit, on se dit bon, il a les épaules, il va tout gérer. Mais non, t'es un être humain et il y a des choses qui sont pas faciles à gérer, tout ça. Et c'est une saison, je pense que on attendait énormément de ce joueur-là. Il n'a pas apporté, en tout cas déjà sur le terrain, ce qu'il devait. Et en plus de ça, les à côté à gérer. Mais c'est pas simple. Mais cette équipe de Strasbourg, moi, c'est une grosse déception, honnêtement, parce que j'ai vu des matchs où ils étaient exceptionnels. Ils avaient une finesse technique dans l'engagement, dans l'intensité, ce qu'ils étaient capables de faire tout au long d'un match. Et tu les vois à certains moments. C'est une autre équipe avec les mêmes joueurs, mais c'est une autre équipe.
Mais tu sais que là, il y a un truc. On peut pas dire que les joueurs choisissent leur match. En fait, c'est le coach qui choisit les matchs. Vu l'équipe qui met en Ligue 1 ces derniers temps.
Bien sûr, mais pourquoi?
Là, il y a des mecs que tu connais pas. Tu aimais devant. Il y a des mecs que tu connais pas. Hein, sur les matchs de Ligue 1, là. De toute façon, je vais te dire un truc, ça. Jeudi, ça doit sauver leur saison.
Ah, ben, c'est évidemment. Les choix de coach, c'était par rapport à ça.
Voilà. Ils ont fait all-in sur la Coupe d'Europe. Ouais. Encore une fois, comme beaucoup de clubs peuvent le faire. Soit ils nous font une soirée magique.
Comme quasi aucun club français ne le fait, hein,
oui,
historiquement.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais il y a des clubs comme ça où, on va dire, parce que le Strasbourg a une histoire particulière avec la Coupe d'Europe. Il y a un coup à jouer, là, énorme, la Conférence League,
oui.
Les premiers.
Jamais t'as été en finale de ta vie, voilà, de ton histoire.
Donc il y a un truc qu'on peut comprendre, mais ça sera compris s'il y a finale.
Non.
Oui,
c'est ça. Si la finale, ça t'emmène.
Pour moi, tu joues pas là, c'était pas favori. C'est dans mon esprit. Bon, pour moi, je trouve que Palace, par rapport au budget, par rapport à tout ce que ça représente.
Oui. Même si Palace sont pas très bien en ce moment.
Ils ont gagné la Cup, etc. Ils ont des joueurs quand même, normalement. Moi, c'est mon esprit, c'est mon avis. Par contre, si tu te fais battre par Rayo Vallecano, qui est 11e budget, 13e budget de Liga, et que toi, Blueco et tout, etc., là, ça la fout très mal quand même. Donc, de toute façon, on va voir.
Mais comme j'ai dit, moi, ce match-là, avant ce match, j'ai dit, au Rayo, c'est très dur. Petit terrain. Ambiance un peu chaude.
Ouais, le Rayo à l'extérieur, c'est pas la même.
Non, c'est pas la même. Ouais. Mais là-bas, c'est très très dur de jouer et de gagner.
Là, ils ont perdu 1-0.
Donc c'est pour ça que moi je vais attendre. Ouais. Oui. Je vais attendre vraiment un tout autre match de cette équipe de Strasbourg.
Ce sera jeudi, effectivement. Au club, on a clairement choisi parce que quand on voit les compos alignés.
Ah ouais, bien sûr.
Tiens, une petite info. Demain, on parlera de l'OM dans l'after, évidemment, parce que vous en avez parlé longuement hier soir, Walid.
Et ça a donné quoi?
Ouais, hier, on a envoyé quand même.
Vous avez vu la Provence qu'ils ont fait? Ils ont mis zéro à tout le monde.
Ouais. Il y a Delange quand même, il aurait dû être épargné quand même.
Greenwood serait, selon la presse italienne, intéresserait la Juve.
Ah, ok. Combien?
Je n'ai pas de prix là.
Alors le prix, ouais.
Mais tu penses qu'il va rester à Marseille?
Il est sous contrat jusqu'en 2029.
J'aimerais bien savoir le prochain club, moi. La Juve, on va. Ouais.
Pourquoi?
La Juve, ouais.
Bon, demain soir, on sera là pour reparler de l'OM et de la Ligue. Samuel, merci. Tu seras avec nous cette semaine pour le retour du Bayern.
Un grand Samuel ce soir. Hein. Heureux, généreux.
Quand Lyon gagne, il y a un truc en plus.
Il y a des choses, je vous ai dit. Les dernières semaines, c'était pas la même chose.
Mais là, je serai là vu qu'il y a un très, 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 très grand match avec énormément de buts.
Demain, on sera là à 22h, les droits de l'âme à 20h et la soirée de Coupe d'Europe, bien sûr, mardi, mercredi et jeudi. Grande semaine d'afterfoot à venir. À demain.
RMC, l'After Foot.